aussi le monde d'après.
Des pistes cyclables nouvelles se dessinent chaque jour sur les chaussées des villes de France. Vous en voyez peut-être pousser vous-même près de chez vous. Et quitte à bousculer un peu les habitudes de circulation, illustration particulièrement parlante de ce mouvement à Tours. Le nouveau maire écologiste a fermé cette semaine aux voitures le pont Wilson face à la Loire. Il n'y a plus que des piétons, vélos et tramways sur ce pont. C'est une expérimentation pour 3 mois. Alors quels sont les chiffres? Est-ce que ça va durer cette tendance du vélo en ville mais aussi en périurbain et dans les zones rurales? On va poser toutes ces questions à un spécialiste du sujet, Jérémy Almosny, chef du service transport et mobilité à l'ADEME. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. D'abord, est-ce que ça se mesure cet engouement pour le vélo? Est-ce que c'est si spectaculaire que ça?
Alors, il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres très précis sur ces nouvelles pistes provisoires ou ces pistes de transition. Les derniers chiffres annoncés par le ministère de la Transition écologique évoquaient 500 km de pistes nouvelles. La cartographie mise en place par la Fédération des utilisateurs de la bicyclette recense à peu près un peu plus de 300 km d'aménagement cyclable de transition qui sont développés. Mm-hmm. Ce qu'il est certain, c'est le taux de fréquentation qui a été mesuré par plusieurs capteurs mis partout en France.
Oui, il y a des compteurs sur les routes parfois. Hein.
Exactement. Et donc là, ce qu'on mesure post-confinement, c'est une croissance importante du nombre d'utilisateurs de la bicyclette. On enregistre période de confinement exclue, bien entendu, un niveau de fréquentation cyclable de plus de 31% en 2020 par rapport à 2019. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette progression, elle est visible à la fois en milieu urbain, donc c'est plus de 35%, mais aussi en milieu périurbain et rural avec un peu plus de 20% de croissance.
D'accord, oui, c'est pas un phénomène exclusivement urbain.
Tout à fait.
Ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que les gens roulent aussi entre les villes, sur les routes, pas forcément quand il y a des aménagements cyclables, c'est ça aussi que ça veut dire?
Alors là, les capteurs ont été mis aux abords des aménagements cyclables, donc c'est plutôt pour voir le taux de fréquentation de ces pistes pérennes ou provisoires, mais vous avez raison, il y a cette possibilité d'emprunter la route avec bien sûr cette parfois difficile cohabitation entre usagers de la bicyclette et automobiles. Et d'ailleurs, c'est les quelques exemples que je peux vous citer qui sont assez parlants. Quelques villes ont déjà fait le choix de faire un certain rétro-pédalage vis-à-vis de ces pistes provisoires. On peut citer Marseille, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Besançon, Quimper, qui, pour certaines, ont supprimé une partie de leurs pistes provisoires, principalement au motif des effets indésirables générés pour les automobilistes, que ce soit sur la congestion, l'abaissement de vitesse, alors que l'objectif quand même premier de développer ces pistes provisoires, c'est d'encourager le report de la voiture vers le vélo pour parvenir aux objectifs gouvernementaux liés à la crise sanitaire, à la crise climatique et plus simplement liés à cette volonté de tripler notre part modale d'ici 2024.
Il y a déjà des villes qui ont fait marche arrière sous la pression donc notamment des automobilistes hein, qui considèrent que ça prend trop de place sur la chaussée, c'est bien ça?
Tout à fait. Donc, c'est quand même un peu asynchrone avec l'annonce gouvernementale là, qui a été faite le 10 juillet où le ministre délégué Jean-Baptiste Djebbari a annoncé que via le plan vélo, un nouvel appel à projet allait permettre aux collectivités qui le souhaitent de pérenniser, sécuriser davantage leurs pistes cyclables. Et pour autant, on voit on observe quelques reculs de certaines collectivités sous la pression peut-être oui. des usagers de l'automobile.
Ça, c'est marginal, les communes qui reculent, ou bien est-ce que au contraire, vous sentez que là, on devient un peu frileux?
Ben, j'ai pas ce chiffre exact. Hein. Je pense que c'est intéressant de voir cette cartographie réalisée par la FUB, hein, qui est une cartographie temps réel, si je puis dire, où les utilisateurs peuvent renseigner les pistes et comment elles évoluent. Donc j'ai pas ce chiffre, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà un certain recul. Un peu anticipé, c'est-à-dire sans que l'expérimentation ait pu être réalisée jusqu'au bout et surtout apprécier l'appétence que je vous ai indiquée préalablement de ces nouveaux usagers de la bicyclette, plus 31%, ce qui n'est pas négligeable. Et on risque d'avoir finalement un phénomène contraire, des gens déchus et qui ne pourront plus emprunter ces aménagements pour se rendre à leur travail ou tout simplement accéder au service du quotidien.
D'accord. Alors, on va aller voir maintenant du côté de Sofia Antipolis, une région où la culture de la voiture est bien ancrée et les embouteillages qui vont avec parfois. Les pouvoirs publics sont en train de dessiner des parcours cyclables kilomètre après kilomètre, notamment pour rejoindre les entreprises de la technopole. C'est un exemple intéressant de la tendance du moment. Bonsoir Sylvie Pontus.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe mobilité, déplacement, transport à la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Comment est-ce que vous vous y prenez alors pour donner le goût du vélo? Ça passe par quoi? Comment vous tracez ces itinéraires?
Alors, c'est vrai que comme à la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, on s'y est mis plutôt tard hein, par rapport à d'autres territoires en France. Tout simplement parce qu'on a un territoire aussi, il y a une histoire de culture, mais il y a une histoire de pente. Hein, on est quasiment montagnard en certains endroits.
Oui, c'est très escarpé.
Donc, c'est difficile de proposer une politique cyclable pour tous avec un vélo traditionnel. Le vélo assistance électrique change vraiment la donne depuis qu'il se démocratise. Et à partir de là, on a décidé de partir dans un plan vélo pour rattraper le retard. Et alors, la méthode, nous, qu'on a empruntée pour essayer de justement d'aller le plus vite possible, c'est de travailler avec les usagers, avec ceux qui faisaient déjà du vélo. Et donc, on a créé une communauté d'usagers avec eux, on est en dialogue constant. Et c'est vrai que ça nous a permis de définir en un temps rapide les aménagements qui étaient vraiment à faire. Ce n'étaient pas forcément des aménagements démonstratifs avec beaucoup de kilomètres, mais parfois c'est des verrous, c'est traverser une départementale qui posait vraiment problème, qui était impossible, donc avec lequel on a travaillé, avec le département des Alpes-Maritimes, pour que l'accès à la technopole hein, et les 38 000 emplois qu'il y a dessus soit possible à vélo.
D'accord, donc l'idée c'est vraiment de partir des routes, des pistes cyclables pour que les gens se sentent en sécurité et se disent « je peux aller travailler à vélo ».
Voilà, et bien écouter ce qu'ils faisaient déjà, parce que c'est eux qui ont finalement le retour de terrain le plus pertinent par rapport à une vision d'automobiliste hein, qui, lui, ne ressent pas du tout les mêmes choses comme le cycliste. Donc c'était intéressant de l'écouter. Et donc ça nous a fait, en 2 ans, réaliser, c'est pas énorme, 10 de kilomètres d'aménagement cyclable entre 2016 et aujourd'hui, mais qui sont vraiment des résolutions de ce qu'on appelle, nous, des points noirs, d'endroits où qui pouvaient totalement décourager les cyclistes de faire. Et puis après, on travaille avec cette communauté d'usagers pour convertir. Parce que la mobilité, c'est oui de l'organisation, mais c'est beaucoup aussi du changement de comportement. Et donc, pour montrer que c'est possible de prendre le vélo, par exemple, pour aller au travail sur la
technopole. Ah oui, comment vous faites ça?
Et bien, ce qu'on a fait, c'est par exemple, on a acheté 20 vélos à la communauté d'agglomération et puis on les met à disposition avec l'association Choisir le vélo, avec des prêts gratuits de 15 jours auprès des salariés. Comme ça, ils peuvent vraiment tester un vélo à assistance électrique avec tout le matériel associé sur leur trajet domicile-travail, sur est-ce que ça me permet d'amener mon enfant à l'école le matin, est-ce que je peux aller à la salle de sport aussi, et voir si ça peut rentrer dans leur organisation quotidienne. Et là, on en est déjà au 250e prêt. On a une liste d'attente jusqu'en octobre, donc on sent qu'il y a vraiment une
appétence. Donc il y a de la demande.
Voilà, immense la technopole. Et pour la moitié, il y a des intentions d'achat après.
D'achat de vélos électriques. C'est des gens qui ont testé, qui ont adopté, voilà, et qui vont acheter un vélo électrique.
Exactement.
Ou pas d'ailleurs. Peut-être aussi un vélo mécanique aussi. Hein. Non, je ne sais pas si c'est...
Alors oui, il y en a. Après, encore
il y a des courageux.
Fois, voilà, il faut être courageux, je ne sais pas, des bons mollets, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, Jérémy Elmosny.
Oui, si je peux juste faire un petit commentaire sur le vélo à assistance électrique. C'est vrai que c'est un vrai phénomène qui est très intéressant parce qu'il était invisible il y a à peu près 10 ans. Il a connu une croissance assez considérable sur le marché avec un doublement du marché depuis 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient capter majoritairement des automobilistes. Ça veut dire que lorsqu'on observe le report de mode, les principaux utilisateurs du vélo à assistance électrique étaient des automobilistes. Donc pour des territoires un peu escarpés ou pour des distances un peu plus longues, il est vrai que le VAE, enfin le vélo à assistance électrique, est une solution qui est très intéressante. Quoi.
Oui, ça permet de passer en douceur, disons, au vélo, ça fait moins peur.
Par exemple.
Et alors justement, si on continue sur cette lancée, Jérémy Elmosny, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus comme équipement, de plus que des pistes cyclables? Est-ce que vous avez des exemples, faites-nous rêver, je sais pas, dans les villes étrangères d'installations qui n'existent pas encore et qui fonctionnent bien une fois que le vélo a vraiment toute sa place?
On peut parler du Danemark qui a un programme sur les super highways, les autoroutes cyclables longue distance, qui est un programme qui mobilise 23 municipalités de différentes tailles, des grandes et des moyennes, mais pour essayer de développer un itinéraire cyclable la plus directe avec le tout confort, comme pour la voiture, avec des aires d'autoroute cyclables, avec des pompes à vélo,
ah oui,
de l'eau
d'accord.
potable, une signalétique.
Vraiment l'autoroute, quoi.
Voilà, donc c'est vraiment c'est un exemple via l'infrastructure. Mais si le Danemark ou les Pays-Bas ont aussi autant d'engouement, c'est parce qu'ils ont des services vélo qui marchent, c'est-à-dire des ateliers de réparation, du stationnement sécurisé et bien entendu des incitations.
Qui sont toutes les infrastructures.
Exactement.
Je retiens l'autoroute à vélo avec les aires de vélo, comme sur les autoroutes qu'on connaît nous actuellement en France, voilà. Mais tout ça n'existe pas encore chez nous. Merci beaucoup Jérémy Almosny, chef du service transport et mobilité à l'ADEME, et Sylvie Merci. Pontus, directrice adjointe chargée des transports à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci.